RFI Soir.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. La Méditerranée et ses tragiques records, plus de 3000 migrants ayant perdu la vie depuis le début de l'année 2014, un bilan inégalé même lors du précédent pic en 2011, lors des printemps arabes, qui est à rapporter au nombre de personnes arrivées clandestinement par la mer depuis le début de cette année. Plus de 130 000 réfugiés et migrants ont traversé irrégulièrement les frontières méridionales de l'Europe par la mer, venant de Libye pour la plupart, après avoir fait la route depuis l'Érythrée, la Syrie, l'Afghanistan ou la Somalie principalement. C'est deux fois plus que pour la même période en 2013. État des lieux des questions qui se posent à l'Europe dans le traitement du dossier migratoire. Quel est le degré d'urgence d'une politique d'harmonisation? Les migrations, nouveaux défis du 21e siècle. Quelle pourrait être une gouvernance internationale des mouvements migratoires? Nos invités, Catherine Vittel-de-Venden, directrice de recherche au CNRS série Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages sur les migrations, dont Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées d'Amnesty International France, de retour d'une mission en Italie autour des questions de recherche et sauvetage en Méditerranée. Bonjour.
Bonjour.
Et Pedro Viana, rédacteur en chef de la revue Migration Société, une revue bimestrielle dont le dernier numéro qui vient de paraître est consacré à l'intégration sous le titre Intégration, une refondation enlisée. Bonjour.
Bonjour.
Que reflète ce record et ce chiffre que j'évoquais en introduction, donc plus de 3000 migrants qui ont perdu la vie en Méditerranée depuis le début de cette année? Quel état des lieux peut-on faire de la situation migratoire autour du bassin méditerranéen, Jean-François Dubost?
Bien, ce que reflète ou révèle ce nombre de morts impressionnant et ce nombre de traversées tout aussi impressionnant sur l'année écoulée, c'est l'incapacité finalement de l'Union européenne à être solidaire avec les États du Sud, donc l'Italie, Chypre, Malte, qui sont en première place par rapport aux arrivées de migrants et de réfugiés. Une incapacité d'une part à les aider à accueillir ces personnes et d'autre part à prendre les mesures nécessaires pour éviter que trop de personnes, un trop grand nombre de personnes ne meurent en Méditerranée, comme cela a été malheureusement le cas au cours de cette année, 3000 morts.
Catherine Vittel-de-Venden.
Oui, je pense que je ne sais pas combien il faudra de morts en Méditerranée pour que l'Union européenne se réveille quant à sa politique migratoire. Est-ce qu'elle peut accepter, tout en se réclamant de la démocratie, des droits de l'homme, d'avoir des milliers de morts à ses frontières? Une étude italienne du printemps 2014 évaluait à 23 000 morts le nombre de personnes qui avaient perdu la vie en Méditerranée depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, faut ajouter ceux des années 90-2000. Donc, c'est un véritable cimetière, la Méditerranée, actuellement.
Pedro Viana.
J'ajouterais, je lisais il y a quelques jours un témoignage poignant d'un des rescapés du naufrage d'octobre 2013. Ça a été publié en italien dans la revue de la Fondation Migrantes, où il expliquait que c'était terrible, mais qu'on ne parlait pas de ceux qui meurent dans les déserts.
Aussi.
Et en disant
aussi,
le nombre de ceux qui meurent dans la traversée du désert est infiniment plus important que celui qui meurt en Méditerranée. Et je pense que le centre du problème, et c'est le titre de l'éditorial du dernier numéro de Migration Société, pour arrêter l'hécatombe, désentraver les circulations migratoires. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation où, pour des raisons dont on pourrait parler très longuement, les circulations migratoires sont complètement bloquées, ce qui provoque ce genre de situation. Je pense que nous aurons l'occasion d'entrer dans le détail plus en avant.
Tout à fait. Alors, Pedro Viana évoquait les morts dans le désert, mais vous-même, Jean-François Dubost, vous revenez d'Italie. Quelques mots peut-être sur cette traversée de la Méditerranée pour ces migrants. Elle se fait dans des conditions les plus douteuses, embarcations de fortune, surpeuplées, conduites par des hommes la plupart du temps totalement inexpérimentés. Il s'agit souvent avec ces traversées de chroniques d'une mort annoncée.
Oui, complètement. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que les personnes que j'ai pu rencontrer rescapées indiquent ne pas avoir connaissance de ces difficultés-là et de ce risque énorme. Il y a aussi le fait, pour ceux qui ont réussi à traverser la Méditerranée, de ne pas empêcher le désir d'exil ou la recherche d'un refuge pour ceux qui sont encore en Libye, par exemple. Et donc, ils ne communiquent pas tous les risques et la dangerosité du trajet. Mais il est évident que c'est une chronique d'une mort annoncée, parce que ces personnes qui souvent, comme vous l'avez dit, arrivent de pays fort lointains, ou un peu plus proches pour la Syrie par exemple, se retrouvent en Libye. Et en Libye, vu la dégradation de la situation, le conflit totalement ouvert qui existe dans ce pays actuellement, l'absence d'État, les personnes n'ont pas d'autre choix. Pour la plupart, elles sont réfugiées, donc elles n'ont pas d'autre choix que de poursuivre leur chemin. Et la seule ouverture, c'est la Méditerranée. Et le seul moyen de traverser cette Méditerranée, ce sont les trafiquants qui mettent des navires à peine capables de naviguer, les mettent à disposition, les forcent même parfois contre leur gré à monter à bord de ces embarcations et ensuite les abandonnent en plein milieu de la Méditerranée où on connaît bien l'issue. Donc effectivement, c'est une chronique réellement d'une mort annoncée, mais les personnes, encore une fois, sont des réfugiés dans leur majeure partie et n'ont pas d'autre solution que cet échappatoire, faute justement, comme disait Pedro Viana, de solutions alternatives offertes notamment par l'Union européenne pour rejoindre légalement et de façon sécurisée le territoire de l'Union européenne.
Alors, on évoquera cette question d'ouverture à des filières légales. Quelques mots, Catherine de Venden, sur ces trafics, sur les trafiquants. C'est un business extraordinairement lucratif.
Tout à fait. J'ai une étudiante actuellement qui est en train de faire une thèse sur les haragas et qui décrit en fait la désespérance des jeunes. Il y a à la fois la guerre ou la crise politique grave, comme dans la Corne de l'Afrique, mais il y a aussi dans des quantités de pays du Sud le sentiment chez les jeunes, et qui sont beaucoup plus nombreux que chez nous, puisque l'âge médian est autour de 25 ans. Chez nous, il est de 40 ans, que chez eux, il n'y a pas d'espoir. Ils ont des régimes politiques qui durent parfois très très longtemps, et que donc la seule façon de changer de vie, de réaliser leurs projets, c'est de partir. Et comme c'est difficile de partir si on n'a pas de visa, puisque pour eux, c'est difficile d'obtenir un visa s'ils n'entrent pas dans les catégories restrictives fixées par l'Union européenne, il y a une économie du voyage clandestin qui est considérable. Et donc, la frontière est devenue une ressource extrêmement lucrative pour les passeurs, souvent assez indélicat, qui explique l'hécatombe des morts en Méditerranée.
Pedro Viana.
J'ajouterais que lorsqu'on examine ce qui s'est passé très récemment, c'est-à-dire ce dernier naufrage qui a fait presque 500 morts, ou plus de 105 morts, les passeurs, entre guillemets, ont fait couler le bateau exprès. Parce que les migrants qui avaient... Le récit de ces jeunes qui ont eu la vie sauve après plusieurs jours en mer, ils ont raconté comment les choses s'étaient passées, comment ils étaient embarqués à Damiet, en Égypte, et on les a contraints à changer de bateau deux ou trois fois, et la dernière fois, ils ont considéré que le bateau dans lequel on leur disait de monter n'était pas à mesure de naviguer. Donc ils ont refusé, et là, les agents des passeurs, parce que ce n'étaient pas les grands chefs qui étaient dans ce bateau qui suivait, ont enfoncé la coque du bateau et il y a eu cette hécatombe. Or, on ne peut pas ne pas faire le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui en matière de migration et ce qui s'est passé aux États-Unis avec la loi sèche. C'est-à-dire qu'avec nos mesures restrictives, avec le blocage des circulations migratoires, on a apporté sur un plateau aux trafiquants une nouvelle niche pour gagner de l'argent. Et ce sont des gens qui n'ont absolument pas de scrupules. La vie humaine, pour eux, ça ne signifie rien. La seule chose qui compte, c'est le profit. D'ailleurs, ils ont un grand exemple quand ils regardent le fonctionnement du monde aujourd'hui, où la grande valeur, c'est les profits. Alors pourquoi ne ferait-il pas des profits comme autrefois Al Capone faisait des profits avec l'alcool frelaté?
Alors, on l'a entendu des uns et des autres, les situations migratoires sont bloquées, on va comprendre ou essayer de comprendre pourquoi. C'est la question que je vais vous poser, et désentraver donc les circulations migratoires. Jean-François Dubos, vous revenez d'Italie. L'Italie est le pays finalement le plus concerné par ces questions de migration venant de Libye, mais n'est pas le seul pays. Il y a aussi, vous l'avez dit, Chypre et Malte. Concrètement, quelles questions se posent à l'Europe eu égard à cette situation? Vous avez souligné le manque de solidarité, la défaillance dans le partage des responsabilités, mais comment traiter cette question migratoire au niveau européen? Qu'est-ce qui, d'après vous, ne va pas en Europe eu égard à cette situation? Jean-François Dubost.
pour nous, à Amnesty International, ce qui ne va pas, c'est effectivement ces cadenas posés sur l'ensemble des frontières de l'Union européenne, indifféremment de la qualité des personnes qui s'y présentent. Et pour illustrer ça, l'exemple de la Bulgarie est assez significatif. Fin 2013, de nombreux réfugiés, principalement syriens, transitant par la Turquie, rejoignent le territoire Schengen via la Bulgarie. Quelques mois après, la Bulgarie, avec des financements de l'Union européenne, rétablit une barrière, une clôture de plusieurs dizaines de kilomètres de long, renvoie des renforts policiers, met en place des systèmes de surveillance électronique, caméras, satellitaires, et la conséquence, c'est que nous retrouvons, alors que la situation n'a pas changé en Syrie par exemple, nous retrouvons avec quelques centaines de personnes début 2014, donc une chute énorme et considérable. Et parallèlement, on observe, et l'agence Frontex de contrôle aux frontières de l'Union européenne le note d'ailleurs dans l'un de ses rapports trimestriels, on observe une augmentation du nombre de personnes, notamment syriennes, tentant des traversées par voie de mer, soit par la mer Égée, soit en Méditerranée. Donc c'est un exemple assez concret qui illustre bien que cet enfermement de l'Union européenne dans une politique qui ne vise qu'à dissuader, qu'à empêcher de rentrer, conduit en fait à accroître le nombre de personnes qui prennent un risque majeur pour leur vie. Alors après, il existe différentes solutions selon que l'on parle de migrants ou de réfugiés. Mmh. Dans le cas des réfugiés spécifiquement, l'Union européenne est très à la traîne sur tout ce qui concerne les voies d'accès légales, sécurisées, la réinstallation des réfugiés depuis leur camp de réfugiés proche des pays de conflit. Il y a différentes solutions très concrètes qui existent, mais c'est surtout une question d'analyse politique. L'Union européenne aujourd'hui s'analyse encore comme une forteresse assiégée qu'il faut absolument défendre.
Catherine Vanden.
Oui, tout à fait. Les frontières terrestres ont été de plus en plus barricadées, pas seulement de la part des pays européens. Il ne faut pas aussi oublier la Grèce, qui avait menacé l'Union européenne de construire un mur avec la Turquie le long de la frontière Evros, qui est un lieu de passage en Thrace, parce qu'elle considérait que l'Union européenne ne s'intéressait pas assez au nombre de migrants qui arrivaient en Grèce par la Turquie. Donc toutes les frontières terrestres sont barricadées. Également en amont, il ne faut pas oublier Ceuta et Melilla, où de façon récurrente, on a des subsahariens qui partent à l'assaut des grillages qui sont construits, militarisés, dans cette enclave espagnole du Maroc. Donc, comme tout ce qui est terrestre est de plus en plus contrôlé, militarisé, sécurisé, la seule voie possible, c'est la mer. Et la mer comporte beaucoup de dangers. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait autant de morts en Méditerranée.
Alors, Jean-François Dubost évoquait l'enfermement de l'Europe, Pedro Viana, on a bien compris aussi des politiques qui ne sont pas du tout harmonisées. Il est temps de les harmoniser.
Tout dépend de comment on les harmonise. Parce que harmoniser, pourquoi pas ? La question est de savoir si on harmonise par le haut ou par le bas. Il y a deux éléments qu'il me semble nécessaire de souligner. Le premier, c'est que contrairement à ce que l'on pense, cette politique de blocage des frontières ne réduit pas l'immigration, bien au contraire. C'est-à-dire qu'en entravant les circulations migratoires, ces allers-retours qu'on a vus par le passé, ont fait que ceux qui arrivent, ils ne repartent plus, c'est clair. C'est-à-dire qu'on transforme la circulation migratoire en immigration. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est toujours rappeler que les migrations dans le monde touchent une partie infime de la population mondiale. Le chiffre est de l'ordre de 2-3%, un peu plus de 3%, 220 millions de migrants, selon la définition classique du migrant, contre, juste à titre de comparaison, 240 millions de migrants internes en Chine. Ça remet les choses en perspective. Ensuite, on va toucher à des problèmes extrêmement complexes et à la fois simples à comprendre. L'Union européenne, les économies de l'Union européenne ont besoin de main-d'œuvre bon marché, puisque le mot d'ordre, c'est qu'il faut réduire le coût du travail, en oubliant qu'on peut aussi réduire les coûts du capital. Mais c'est le mot d'ordre, réduire les coûts du travail. Or, dans les pays européens, heureusement, nous avons encore une législation du travail qui est protectrice, qui pose des règles. Donc, pour avoir une main-d'œuvre flexible, il faut des personnes qui ne soient pas protégées par les codes du travail. Donc la conclusion est simple, c'est ce qu'Emmanuel Terret avait appelé la délocalisation sur place, c'est-à-dire là où on ne peut pas délocaliser les usines parce qu'on a besoin de la production sur place, l'hôtellerie, la restauration, etc., les services aux personnes, l'agriculture. Et donc à ce moment-là, on a un volet de main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, extrêmement flexible. Et donc ça explique pourquoi aujourd'hui, on a un discours anti-migratoire, mais quand vous voyez ce qui se passe dans le département du Lot-et-Garonne, où vous avez le père qui est le président de la Confédération rurale du département et le fils qui est le dirigeant du Fonds national du département, ils n'arrivent pas à coordonner leur discours parce que l'un, quand même, il ne peut pas être contre l'immigration parce que toutes ces troupes utilisent cette main-d'œuvre qui est en situation irrégulière, alors que le fils tient le discours du Front National. C'est extrêmement complexe, tout ça. Et à côté de ça, on utilise ce discours anti-migratoire en politique. Et vous voyez la configuration et les résultats est là. Ce sont les gens qui meurent.
Alors, on va sortir du contexte français et avant d'aborder dans la deuxième partie de l'émission le contexte plus mondial, c'est vrai que Pedro Viana rappelait que la migration ne représentait finalement qu'une partie infime des populations mondiales. J'en reviens à vous, Jean-François Dubost, avec la question italienne. Rome a fait savoir qu'elle allait interrompre l'opération Mare Nostrum qui vise à venir en aide aux migrants. On a dit que l'Italie était le premier pays le plus concerné par ces questions. On peut rappeler que donc l'Italie autorise le débarquement sur son territoire de toutes les personnes secourues dans le cadre de cette opération. Qu'est-ce qui va se passer une fois que l'Italie aura interrompu cette opération Mare Nostrum? Quelles sont les craintes?
Les craintes des personnes, et puis nos craintes à Amnesty International, mais surtout celles des personnes premières concernées, donc qui sont sur les côtes italiennes que j'ai pu rencontrer, sont assez claires. Hein, en l'absence d'une opération de même envergure que celle mise en place par l'Italie, l'opération Mare Nostrum. Donc en l'absence d'une opération de même envergure, voire même d'envergure plus importante, parce que Mare Nostrum, ce sont 140 000 vies sauvées, mais quand même 3 000 encore, et probablement plus, qui n'ont pas pu l'être. Donc si aucune opération européenne coordonnée au niveau européen, puisque l'Italie s'arrête parce qu'elle explique que ce n'est pas tenable sur le long terme pour un seul État, sans aide européenne, d'assumer une telle opération. C'est 9 millions d'euros par mois, on peut imaginer qu'effectivement ça puisse poser un problème au niveau interne en Italie, même si la globalité de la population, sans faire des généralités, mais une bonne partie de l'opération est plutôt favorable par rapport à cette opération de sauvetage en mer. En tout cas, s'il n'y a pas d'équivalent européen sur le long terme, comme une mesure parmi d'autres, parce qu'il faudrait aussi régler la question à la racine, soit sur le plan de la migration pour des raisons par exemple économiques ou familiales, mais également sur le plan de la migration forcée pour les réfugiés. Donc c'est pas simplement une seule solution du sauvetage en mer qui peut résoudre cette question-là. Mais en tout cas, s'il n'y a pas cette opération au niveau européen, tout le monde s'attend à une recrudescence du nombre de morts, d'embarcations qui couleront en Méditerranée. Les habitants de Lampedusa sont clairs. Jusqu'à présent, grâce à l'opération Mare Nostrum, ils n'ont plus de corps sur leurs côtes, ils n'ont plus à faire des sorties en mer en urgence à tout moment de la journée pour sauver des bateaux. Ils se préparent au pire, sachant que l'opération Mare Nostrum ne se poursuivra pas. Et par ailleurs, ils s'y préparent d'autant mieux que l'Union européenne, avec une opération dénommée Triton, semble donner l'impression de vouloir prendre le relais, mais en réalité, c'est une opération principalement de contrôle de surveillance et pas réellement de sauvetage et de secours en mer, et qui plus est beaucoup trop proche des côtes italiennes pour anticiper au plus tôt, en direction de la Libye notamment, les éventuels naufrages qui pourraient arriver. Donc le scénario qui se dessine pour fin 2014, début 2015 est très très noir.
Catherine de Venden, concrètement, l'Italie ne veut pas payer pour les autres.
Bah oui, puisque très souvent, d'ailleurs, l'Italie a répété, faut pas oublier que même du temps de Berlusconi, on avait eu les arrivées en 2011, après les révolutions arabes, des Libyens et des Tunisiens, et Berlusconi avait dit que l'Europe l'abandonnait face à ces arrivées, méprisant la façon dont l'Italie contrôlait ses frontières et avait l'impression d'être isolée. Donc ça n'est pas la première fois que l'Italie a le sentiment d'être laissée seule, finalement, par une Europe du Nord, disons, dubitative, à propos de la façon dont les pays d'Europe du Sud contrôlent leurs frontières. Or, ce sont eux qui sont, entre guillemets, aux premières loges pour le secours et l'arrivée des nouveaux arrivants, sachant qu'ils ont aussi un marché du travail qui parfois est attractif parce qu'ils ont des quantités de secteurs qui dépendent de l'immigration irrégulière en Italie, mais aussi dans beaucoup de pays européens, comme ça a été rappelé.
Alors, dans le registre des choses qui ne fonctionnent pas, mais je vais poser la question pour demander à nos auditeurs de rester bien présent pour la deuxième partie. C'était la question du règlement de Dublin, et je me tournais vers vous, Pedro Viana. Pour mémoire, on peut rappeler que selon ce règlement, l'État membre d'arrivée des migrants est responsable de l'examen des demandes d'asile et du renvoi vers leur pays d'origine des migrants irréguliers et des demandeurs d'asile déboutés. La question que je vous poserai pour redémarrer l'émission dans la deuxième partie, c'est en quoi finalement le règlement de Dublin est un obstacle à une solution. Géopolitique, nous retrouvons nos invités et après le journal, Catherine Vittel-de-Venden, Jean-François Dubost et Pedro Viana.
Prévenir. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, les migrations, nouveaux défis du 21e siècle. Nous retrouvons nos invités, Catherine Vittel-de-Venden, directrice de recherche au CNRS Série Sciences Po, Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées d'Amnesty International France, et Pedro Viana, rédacteur en chef de la revue Migration Société. Pedro Viana, on a terminé la première partie de l'émission sur cette question que je reprends à propos des choses qui dysfonctionnent en Europe quant à la question migratoire. On a beaucoup parlé de ces migrants et du passage à travers la Méditerranée. Il y a un règlement qui est le règlement de Dublin, qui prévoit que l'État membre d'arrivée est responsable de l'examen des demandes d'asile et du renvoi vers leur pays d'origine des migrants irréguliers et des demandeurs d'asile déboutés. En quoi ce règlement de Dublin est-il un obstacle à une solution sur cette question des migrations en Europe ?
Encore une fois, c'est une question de volonté politique. Il faut rappeler que ce qu'on appelle aujourd'hui couramment Dublin 3, parce qu'il y a eu un Dublin 2 et il y a eu un Dublin 1, qui était la Convention de Dublin 1990, où la justification de la rédaction et de la signature de cette convention était d'éviter la présence de ce qu'on appelait à l'époque les réfugiés en orbite. C'est-à-dire qu'un réfugié arrivait dans un pays, disait « je veux demander l'asile », on disait « ah mais non, vous êtes passé par tel pays, donc on vous renvoie ». Il y a des gens qui sont restés 6 mois en allant d'aéroport en aéroport. Et donc, les gouvernements de l'époque, toujours avec une grande générosité, avaient dit « nous allons signer une convention » pour fixer quel est l'État responsable de l'examen de la demande. Donc le but initial de Dublin était présenté comme quelque chose de très positif, qu'aucun demandeur d'asile ne soit repoussé comme ça d'un pays à l'autre comme une balle de ping-pong. Et donc, la Convention de Dublin a posé ces critères, qui sont grosso modo les mêmes, hein, ça n'a pas trop changé sur le fond, mais en posant, il y a un article de la Convention, je ne sais plus dans le règlement quel numéro il porte, mais qui disait qu'un État était obligé, dans certains cas, d'examiner la demande, mais laissant à n'importe quel État le droit de dire, même si ce n'est pas à moi d'examiner cette demande, je vais l'examiner parce que la personne est sur le territoire. Mais personne ne le fait. Et donc c'est toujours le piège, à chaque fois en matière d'asile, qu'on a construit quelque chose soi-disant pour le bien des réfugiés, ça a eu l'effet contraire. C'est Dublin, c'est la zone d'attente, c'est les centres de rétention. À chaque fois, on enrobe la mesure d'une vêture humaniste et dans la pratique, c'est encore un outil dans la politique de répression. Et c'est pour ça que je dis, tout est une question de volonté politique. Qu'il y ait l'obligation d'examiner qu'un demandeur d'asile, qu'un réfugié ne soit pas placé dans une sorte de limbe pour qu'on n'examine pas sa demande parce que personne ne veut le faire, je ne suis pas contre. Ce que je suis contre, c'est qu'on utilise cela comme prétexte. Parce que le drame de ce règlement Dublin, qui était déjà celui de la Convention, c'est qu'on dénie aux réfugiés le droit de choisir le pays où il veut trouver l'asile.
Alors, pour aller plus loin, et je me tourne vers vous, Jean-François Dubost, donc Pedro Viana parlait de manque de volonté politique quant à ces questions. C'est vrai qu'aussi que les pays européens sont pris par le poids des préoccupations liées à l'immigration. On a parlé de la nécessité de désentraver les circulations migratoires. Que permettrait l'ouverture de voies légales, Jean-François Dubost ?
Alors ça dépend de l'ouverture de voie légale pour qui, mais si l'on regarde dans un premier temps l'ouverture de voie légale pour les réfugiés, encore une fois, des personnes que l'on a évoquées dans la première partie de cette émission comme risquant leur vie en franchissant soit des frontières, des barrières barbelées ou alors la Méditerranée, l'ouverture de voie légale permettrait de limiter les voies dangereuses empruntées par les réfugiés et puis surtout permettrait d'éviter que ces personnes ne tombent entre les mains de réseaux bien organisés, que l'on dénomme souvent comme étant des passeurs, des trafiquants, traite des êtres humains parfois aussi, des réseaux contre lesquels luttent les États, et c'est un peu tristement amusant de voir que finalement la politique des États génère ce ensuite contre quoi ils vont combattre et au nom de quoi ils vont mettre en place davantage de barrières ou de mesures coercitives. Mais lorsque l'on parle d'entrée sécurisée pour les réfugiés, il peut s'agir d'une part de faciliter la délivrance de visas pour des motifs familiaux. Bon nombre de réfugiés dans les embarcations en Méditerranée par exemple, mais ailleurs également, tentent de rejoindre des membres de leur famille qui sont déjà reconnus réfugiés par les États de l'Union européenne. Il peut s'agir également de délivrer plus facilement des visas au titre de l'asile. En France, nous avons eu une actualité assez forte avec l'annonce du président François Hollande de faciliter l'entrée sur le territoire français depuis le consulat d'Erbil, notamment en Irak, de personnes de confession chrétienne. C'est peut-être une solution avec un certain nombre de limites et de garanties. Et puis surtout, la plus grosse facilité d'entrée légale pour des personnes en danger, eh bien, c'est le système de la réinstallation. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle à réinstaller chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont bloquées, vulnérables dans des camps de réfugiés, qui ne peuvent pas y rester. Et les États sont censés offrir des places de réinstallation. En guise d'exemple, depuis le début de la crise en Syrie, la France a offert 1000 places à des réfugiés syriens vulnérables et n'en a accueilli aujourd'hui qu'environ à peine 200, pour dire la grande motivation des États à utiliser pour des voies légales qui, encore une fois, auraient pour avantage de réduire, de limiter, de fragiliser les voies d'accès irrégulières avec tout ce que cela comporte parfois de criminalité associée. Ensuite, il y a évidemment des entrées légales pour des migrants, mais là on rentre dans la gestion des migrations avec toute une série de critères liés à la famille, ou au travail qui permettrait aussi d'alléger la pression, si l'on peut parler comme ça, qui se fait au niveau des frontières de l'Union européenne.
Alors, pour poursuivre avec l'Union européenne, Catherine de Venden, Jean-Claude Juncker, le président de la future commission, entrera prochainement en fonction. Il ambitionne que l'Union se dote d'une nouvelle politique migratoire. Qu'est-ce que l'on sait de ses intentions? Est-ce que une nouvelle politique est à attendre?
Alors, je pense que l'Union européenne est un peu enlisée dans ce qui a déjà été fait. Et donc, il y a une sorte de logique sécuritaire qui s'est construite depuis les années 90, quand la migration est sortie de l'orbite main-d'œuvre pour entrer dans l'orbite sécurité. Donc, l'immigration, c'est toujours assimilé à une question de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la délinquance, etc., dans une vision qui n'a rien à voir avec la réalité des flux aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'en gros, vers l'Europe, entre 30% de gens qui sont des étudiants, regroupement familial, 25% des demandeurs d'asile, 25% des gens qui entrent pour travailler et 30% donc des étudiants. Donc on a en gros un équilibre partagé en quatre entre les étudiants, les demandeurs d'asile, les familles et les travailleurs. Donc je pense qu'on va retourner dans cette approche. C'est que la chose qui a vraiment changé en Europe, ça a été au début des années 2000 qu'il y a eu une prise de conscience qu'on sortait de l'immigration zéro et qu'il fallait ouvrir un tout petit peu les frontières aux qualifiés, parce que sinon on restait en dehors de la compétition internationale pour la créativité, etc. Mais ça a eu un effet très limité, puisque ça n'a concerné que très peu de métiers. Par exemple, en France, la carte compétences et talents n'a même pas eu le nombre de candidats qui étaient attendus, tellement c'était restrictif. Et le résultat, c'est qu'on fait payer aux sans-papiers l'hypocrisie qui consiste à dire il faut rester fermé, sécuritaire, etc. Donc les gens qui ont les métiers les moins qualifiés souvent n'ont aucun statut. Faut pas oublier qu'il y a 30-40 ans, même les gens qui étaient OS chez Renault ou qui avaient des métiers d'ouvriers agricoles, ils avaient un statut. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont peu qualifiés, parce qu'on n'ose pas dire à l'opinion publique qu'on a aussi besoin de gens peu moyennement qualifiés, c'est qu'ils entrent, parfois légalement d'ailleurs, mais ils sont en situation irrégulière sur le territoire français après quelques temps. Donc ça, c'est complètement inadmissible. C'est une politique qui n'ose pas annoncer ce qu'elle fait en réalité.
Alors, on l'a bien compris, les migrations sont vues soit comme un grand chantier des droits de l'homme, soit comme un mal à combattre. C'est cette logique sécuritaire qu'évoquait à l'instant Catherine de Venden. Pedro Viana, est-ce que finalement l'approche européenne est très différente de l'approche états-unienne, voire de l'approche australienne, qui sont les deux autres pôles très concernés finalement par les questions migratoires ?
Sur vraiment le fond du fond, je pense que non. C'est-à-dire que chaque pays est dans une logique extrêmement nationale en voyant quel est son intérêt. Et donc, ils vont agir. Alors, un pays comme l'Australie, qui a toujours envisagé l'immigration comme une façon de peupler le pays, qui a été peuplé de cette façon par les puissances coloniales, notamment la Grande-Bretagne. Donc, il y a un besoin de main-d'œuvre qui est assumé et l'économie du pays a besoin de cette main-d'œuvre et l'utilise. En tout en sachant qu'aujourd'hui, les cas de l'Italie est extrêmement important. On a parlé tout à l'heure de la manière dont le gouvernement italien a courageusement mis en place cette opération Mare Nostrum. Et en même temps, le gouvernement actuel, s'il a annoncé que l'opération va prendre fin, c'est parce qu'il y a eu une pression politique interne terrifiante. Et donc, le gouvernement italien a cédé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exploitation, c'est-à-dire le migrant aujourd'hui continue d'être montré du doigt comme les boucs émissaires, le responsable de tous les maux, en oubliant que ce sont ces immigrants sans papier qui construisent la société. Je continue de penser que la solution passe par l'ouverture des frontières, mais bien entendu avec l'application stricte du code du travail, de manière que tout travailleur qui soit étranger ou national soit protégé de la même façon. Sinon, nous sommes dans le dumping social, etc. Mais je pense que dans les autres pays, pour revenir à votre question, que ce soit les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est la logique nationale, la logique économique qui prévaut. Et quand on parle de droits de l'homme, je souris. Parce que on voit le mur de Berlin dont on fête le 25e anniversaire de la chute, qu'y a-t-il entre la frontière des États-Unis et du Mexique ? C'est un grillage électrifié. Qu'y a-t-il au Maroc ? Avec les enclaves de Ceuta et Melilla, ce sont des murs. Et ce que nous avons réussi avec ces politiques aberrantes, ça a été de transformer des pays d'émigration, comme c'était le cas du Maroc, le cas du Mexique, en pays d'immigration forcée, qui sont obligés d'absorber ces flux migratoires qui sont bloqués chez eux. Et évidemment, on leur donne de l'argent en disant « mais pour la répression ».
Alors, avant d'aborder peut-être la question de la nécessité de la permanence ou non des frontières, et Jean-François Dubost, je me tourne vers vous. Avec cette question, mais je pense que pour nos auditeurs, c'est un important parce que ça permet de vraiment de poser les choses et de mieux comprendre. Pourquoi finalement est-il si important de traiter les questions migratoires aujourd'hui ?
C'est une vaste question du point de vue des États. Je pense qu'il y a cette nécessité-là parce que cela touche à la fois, d'une part, à l'intégrité territoriale en fonction des modes d'arrivée sur un territoire, une frontière avec toute la valeur symbolique qu'elle peut revêtir et l'idée peut-être derrière de protection de la population qui y est logée à l'intérieur. Donc une question d'intégrité territoriale. Il y a certainement aussi une question d'identité et on a eu les années récentes en France un long débat là-dessus sur l'identité nationale qui est, si elle existe, touchée par l'arrivée de personnes étrangères avec d'autres cultures, d'autres habitudes, et puis vraisemblablement aussi un impact sur le marché du travail et l'idée peut-être de compétition entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux, même si on voit bien qu'en réalité le secteur économique ne le pense pas forcément de cette façon-là. Donc je pense que traiter les migrations au niveau d'un État, ça s'explique de cette façon-là. Après, c'est aussi comment face à un phénomène international bien établi depuis des presque des millénaires, comment la communauté internationale peut aujourd'hui s'organiser pour mieux traiter ces migrations et éviter toutes ces zones de crispation, ces lieux de violation des droits, comme on a pu l'exposer là depuis le début de l'émission.
Et ces questions migratoires, Catherine de Venden, c'est évidemment dans le sens de la mondialisation.
Tout à fait. Moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de prise de conscience dans des franges très larges de l'opinion publique de la dimension internationale du phénomène et de la dimension mondiale. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils voient ce qui est juste à leur porte, sans penser que c'est un phénomène. Le monde s'est discrètement, ça a été rappelé par Pedro, mis en mouvement. 3,2% de la population mondiale en situation de migration internationale, c'est peu, mais il y a une sorte d'affolement et finalement, on préfère faire l'autruche que d'essayer de traiter la question à l'échelle internationale et surtout à l'échelle mondiale, parce que c'est un sujet controversé et donc on a une politique à très très court terme et à très courte vue en la matière, et le résultat, ce sont les victimes de cette politique, c'est-à-dire les morts aux frontières.
Alors, pour en tout cas poser une pierre dans cet édifice de la question des migrations, on évoque souvent cette nécessité ou non d'une gouvernance régionale, une gouvernance mondiale des migrations. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Pedro Viana ?
Je pense que, encore une fois, ça dépend de quelle gouvernance, puisqu'on peut imaginer une gouvernance régionale ou mondiale avec un esprit répressif, ce qui aurait les mêmes conséquences catastrophiques qu'aujourd'hui, et on pourrait imaginer aussi, on peut toujours rêver, une gouvernance mondiale qui aille dans le bon sens tel que nous l'avons défini ici. Mais j'ajouterais sur la question des États, je m'aventure un peu sur le terrain de la psychologie des États. Vu la configuration géopolitique du monde aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la mondialisation, les États sont réduits aujourd'hui à leur plus simple expression. C'est-à-dire que la question de l'entrée sur le territoire reste encore le dernier bastion de la souveraineté nationale. Et ça explique en partie cette crispation. On est dans un monde où le libéralisme a envahi tous les secteurs de la société, sauf le secteur des migrations. C'est-à-dire, tout doit circuler, sauf les êtres humains. Eux, ils sont interdits de circulation. Et donc, évidemment, l'État continue dans cette crispation qui s'est faite autour de la souveraineté nationale. Et cette crispation qui est souvent, à mon avis, alimentée volontairement pour continuer de permettre au système de fonctionner d'une certaine façon.
Jean-François Dubos, tu as un commentaire sur ce que vient de dire Pedro Viana ?
Sur le fait qu'effectivement c'est le bastion le mieux gardé de la souveraineté des États, c'est clair, et d'ailleurs on voit bien au niveau de l'Union européenne notamment qu'on est pourtant dans un espace intégré avec une liberté de circulation, y compris pour les ressortissants des États de l'Union européenne, de certaines facilités de circulation pour des ressortissants d'États tiers à l'Union européenne, et pourtant lorsqu'il s'agit d'une part de se mettre d'accord pour contrôler, repousser, là il y a une sorte d'unanimité, les budgets sont votés, les mesures sont prises. Lorsqu'il s'agit en revanche de réfléchir à un mode positif, une approche positive des migrations. Il y avait une approche globale pour les migrations qui était un processus proposé par l'Union européenne pour essayer de dialoguer avec un certain nombre de pays d'origine et de transit de migrants. Les partenariats pour la mobilité en font partie notamment. Lorsqu'il s'agit donc d'essayer de dégager une approche mise en commun, les États se replient sur eux et c'est un volet de la politique de l'Union européenne qui est le moins avancé sur la question des migrations et asile. Ce volet-là d'une approche commune, collective, vis-à-vis de l'extérieur et des États de provenance, d'origine et de transit des migrants, n'est absolument pas développée. Et on a l'impression que les États ne veulent surtout pas mettre en commun ce qui, pour eux, représente encore peut-être le dernier élément de leur souveraineté, oui.
Catherine de Venden, quels sont, et ce sera la dernière question pour cette émission, quels sont finalement les risques si une approche commune, collective, n'est pas trouvée ?
Eh bien, toute une série d'effets pervers, des millions de sans-papiers. Faut pas oublier qu'on en dénombre à peu près 11 millions aux États-Unis, 5 millions dans l'Union européenne, des quantités de morts aux frontières, un coût du contrôle qui a échoué quand même depuis 30 ans. L'idée de la dissuasion était une grande idée de la dimension sécuritaire. Un coût du contrôle colossal pour le contribuable. Une inadéquation à la situation démographique et du marché du travail des pays européens, le non-respect des droits de l'homme pour lesquels beaucoup de pays de l'Union européenne, dont la France, se sont fait condamner à plusieurs reprises, et finalement une vision à très très court terme de la situation, puisque la migration va se poursuivre. C'est un phénomène structurel qui correspond à l'évolution des sociétés d'origine, mais aussi des sociétés d'accueil, souvent vieillissantes, et donc on est dans une approche finalement qui a 30 ans de retard par rapport à la réalité.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à vous, Catherine de Vinden. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages sur les migrations, dont Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer, aux éditions Autrement. Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées d'Amnesty International France. Vous êtes de retour d'une mission, Jean-François Dubost, d'une mission en Italie autour des questions de recherche et sauvetage en Méditerranée. Et Pedro Viana, rédacteur en chef de la revue Migration Société, dont le dernier numéro vient de sortir sous le titre Intégration, une refondation en lisée. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ou si votre connexion est difficile, sur m.rfi.fr, qui est la version simplifiée de notre site mobile. Également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte, avec la contribution de la documentation